Eh bien, bienvenue sur le cours de F6KGL, bonsoir à tous. Et donc ce soir, nous voyons la troisième partie du chapitre 2 de technique. Et après avoir vu la semaine dernière les bobines et les condensateurs parfaits, c'est-à-dire ceux qui n'existent pas dans la vraie vie, eh bien on va voir maintenant les condensateurs et les bobines non parfaits, c'est-à-dire ceux qu'on utilise régulièrement. Et malheureusement, tout ce que l'on avait vu, peut-être pas tout, mais on va mettre des bémols un peu partout de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Heureusement, les fondamentaux, ceux-là, ne vont pas changer, heureusement. Alors, premièrement, mais c'est parce que ça, on ne l'a pas vu la semaine dernière, on va voir le charge et la décharge d'un condensateur. Alors, qu'est-ce que la charge et la décharge d'un condensateur? En fait, c'est un circuit où on a ici une pile, là c'est E, donc c'est un générateur, mais ici concrètement c'est une pile, et qui, ici on a ici une bascule, un interrupteur, et donc on bascule d'un côté ou de l'autre, donc en position 1 ici, ça va, la tension va remplir le condensateur à travers ici une résistance, et lorsqu'on est en position 2, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le condensateur va se vider à travers la résistance. D'accord ? Donc, ce système, c'est un système pour remplir un condensateur ou au contraire le vider. Parce que, évidemment, si on ne met pas ici de résistance, à partir du moment ici où on va mettre une pile, mon condensateur, il va être plein quasi instantanément. Alors, quasi instantanément, pourquoi? C'est que, en règle générale, les valeurs ici, si c'est un énorme condensateur, et si c'est un condensateur même de plusieurs microfarads, voire 1 millifarad, le temps ici que la pile remplisse le condensateur, ça va être très court, donc c'est quasi instantané. Tout au moins, nous, à l'œil nu, on ne va pas le voir. Et même chose, si, une fois le condensateur chargé, si on le décharge sans mettre ici de résistance, en fait, ça va faire un court-circuit. Alors, vous risquez de voir ici une petite étincelle, un petit éclair ici, sur quand le bilam va aller sur le 2, mais ça va être très court, parce que le condensateur, encore une fois, sauf s'il est de très grande valeur, le condensateur va se vider très vite. D'accord ? Donc, là, l'objet, c'est de le remplir, mais, je dirais, doucement. Et comment on va le remplir doucement ? En rajoutant ici une résistance en série qui, évidemment, va limiter le courant, tout simplement. Hein, je rappelle, la loi d'Ohm, elle est toute bête. Hein, l'intensité, elle est fonction de la tension et de la résistance. Hein, U égale RI. Donc si vous avez ici une tension de pile de 9 volts, on va dire, et si vous avez ici une résistance, et bien automatiquement l'intensité qui va passer dans la résistance, et qui donc va remplir le condensateur, du coup ça va mettre un peu de temps. Et plus la résistance ici est importante, et plus le condensateur ici est important en valeur, et bien plus ça va mettre de temps à se remplir. C'est quelque chose qu'on intuitivement, qui se comprend assez facilement. Et donc, on en arrive à définir plus exactement une constante de charge, c'est pas un temps de charge, c'est une constante de charge. Et cette constante de charge, c'est T donc en secondes, puisqu'encore une fois, on est toujours dans notre monde du système international de mesure, donc le temps se mesure toujours en secondes, la résistance toujours en ohms, et le condensateur va se calculer ici en farad. Donc la constante de temps, c'est égal à R multiplié par C. Et donc ce n'est qu'une constante, c'est-à-dire qu'en aucun cas c'est le temps que va mettre le condensateur à se remplir. Et donc ce condensateur là, il va mettre un certain temps. Alors comment on en arrive à cette formule assez simple? On sait que Q, enfin la définition du condensateur, c'est la quantité d'électricité qui est emmagasinée dans le condensateur, c'est égal à la valeur du condensateur en farad multipliée par la tension en volts. On sait que Q est égal à I multiplié par T, donc je remplace I multiplié par T, donc égal Cu, et comme j'ai un T qui est ici, qui m'intéresse, c'est mon temps, I, je vais le faire basculer de l'autre côté de mon signe égal, et donc ça va me donner C multiplié par U divisé par I. U divisé par I, c'est résistance, R égale U sur I. Et donc, j'en déduis que mon temps, ma constante de temps, c'est égal à R multiplié par C. Alors, ça c'est, la constante de temps, c'est si tout allait bien, en fait, le temps que mettrait mon condensateur à se remplir, ça serait cette constante de temps. Si j'appliquais à la lettre, et d'ailleurs au départ c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que mon condensateur là se remplit à la vitesse de la constante de temps. Le problème, c'est que au fur et à mesure que j'ai de l'intensité qui passe, mon condensateur ici il se remplit. Et comme il se remplit, vous connaissez maintenant la loi des mailles, comme il se remplit, ici, j'ai une tension. Et donc mon différentiel de tension, enfin la valeur de la tension que j'ai sur ma résistance, c'est égal à la tension de la pile moins la tension du condensateur. Et au fur et à mesure que je remplis mon condensateur, j'ai la tension aux bornes de la pile, de la résistance, pardon, qui descend. Comme cette résistance diminue, eh bien, automatiquement, mon intensité va diminuer. Hein? Puisque, encore une fois, l'intensité U est égale à RI. Tout au moins, I est égal à U sur R. Et donc, si ma tension ici, aux bornes de ma résistance, qui est la valeur de la pile au début, puisque mon condensateur est vide, par définition, comme il est vide, eh bien, et j'ai pas de tension aux bornes de mon condensateur. En revanche, au fur et à mesure qu'il va s'emplir, mon condensateur, la tension va apparaître aux bornes de mon condensateur, et donc, par différence, la tension aux bornes de ma résistance, là, va diminuer. Et comme elle diminue, mon intensité diminue aussi. Et c'est pour ça qu'on en arrive, alors, on va voir le deuxième schéma après, mais on va regarder d'abord le premier schéma, que je vais agrandir ici pour vous montrer plus précisément ce que ça va donner. Hein? Ici, tout au départ, ici, ça c'est ma droite, et où si mon condensateur ne se chargeait pas, voici la tension que j'aurai aux bornes de mon sans l'effet de mon condensateur qui se remplit et donc cette tension, j'aurai une droite ici. Hein, T égale RC, j'arrive ici. Et donc j'ai cette droite-là. D'accord ? Donc au bout de cette fameuse constante de temps, eh bien, j'aurai rempli mon condensateur. C'est faux, puisque je viens de voir que j'ai une tension aux bornes de mon condensateur qui va augmenter au fur et à mesure que je le remplis. Et comme cette tension augmente, eh bien la valeur aux bornes de ma résistance va diminuer, et donc ça va limiter l'intensité. Si bien qu'au bout de ma constante de temps, eh bien je ne suis pas ici à 100% de remplissage du condensateur, mais j'en suis ici qu'aux 2/3. Alors précisément, alors effectivement, le condensateur est plein lorsqu'il atteint la tension de la pile. Mais le tout, c'est de savoir quand. Et donc, quand est-ce que ça se passe? Et donc là, mon condensateur, il est plein aux 2/3. Alors, précisément, c'est 63,2%, ça se calcule. On va passer là-dessus. On va dire les 2/3, pour faire simple. Hein, 63%, c'est proche de 66,7%. Et donc, on dit que c'est les 2/3. Donc ça, c'est au bout d'une constante de temps. On en est là. On peut aussi reprendre ici ce schéma où on a ici la constante de charge en bleu. Et donc au bout de 1T, ici j'en suis à 63%. Et lorsque je suis à... Et donc je continue après à remplir, puisque mon idée c'est de remplir entièrement mon condensateur, c'est-à-dire que la tension aux bornes de mon condensateur soit égale à la tension aux bornes de ma pile. Et dans ce cas-là, je n'aurai plus d'intensité dans ma résistance. D'accord ? Donc j'aurai que de la tension et plus d'intensité dans mon système. Au bout de deux constantes de temps, en fait, je vais remplir à nouveau des 2/3 restants. Et donc, 2/3 de 2/3, finalement, ça me fait ici mes 87%. Et puis au bout de 3T, je vais encore remplir 2/3. Moralité, à chaque fois, on n'y arrive jamais, puisque à chaque fois, il va manquer 1/3. Alors quand je dis 1/3, c'est, encore une fois, j'arrondis. Hein. Mais c'est bien pour vous donner bien cette notion-là. Donc à chaque fois, il va manquer 1/3 de résiduel par rapport à ce que l'on avait à la constante de temps auparavant. Et c'est pour ça qu'on appelle ici cette courbe ici asymptotique. Alors asymptotique, c'est un superbe nom qui en mathématiques veut dire que c'est une courbe qui se rapproche de plus en plus d'une droite, mais sans jamais la franchir. On s'en approche de plus en plus, mais on n'y colle jamais. Et surtout, on ne la dépasse jamais. Donc c'est ça qu'on appelle une asymptote. Donc il y a deux asymptotes ici. Il y en a une ici par rapport à cette droite-là. Ça, c'est une asymptote. Et la deuxième ici, elle est ici. Donc on a deux asymptotes. Et voilà, et donc on a une jolie courbe entre les deux. Et alors, parce qu'on dit, ok, mais le condensateur, du coup, il n'est jamais plein. Et donc, ma question de tout à l'heure, quand est-ce que mon condensateur est plein ? Bah, en fait, jamais. Alors, les physiciens ont dit, faut pas déconner, on va donner une valeur, et cette valeur, c'est 5 fois le temps, la constante de temps. Pourquoi ? C'est qu'au bout de 5T, en fait, il va nous rester 1% de la valeur de la tension, enfin de la capacité du condensateur à se remplir encore. Il ne restera plus que 1%. Et donc on dit 1%, donc il est plein à 99% en clair. Et donc plutôt que de dire il n'est jamais plein, on va dire au bout de 5T, il est plein à 99%, à plus de 99%, donc on va considérer qu'il est plein tout court. Même si c'est faux. On est bien d'accord. Mais faut partir d'un principe, sinon on ne s'en sort pas. Et évidemment, ce que l'on a vu pour la charge, ça va fonctionner aussi à la décharge. Donc je reviens ici sur mon schéma. Pourquoi ? C'est qu'une fois que mon condensateur est plein ici à plus de 99%, je vais rebasculer ici mon contact, donc en décharge. Et évidemment, cette décharge, elle va se passer par cette résistance qui va limiter l'intensité. Et comme ça limite l'intensité, eh bien, ça va prendre plus de temps, la constante de temps, même chose. Et le problème, c'est qu'au bout de cette première constante de temps, mon condensateur ici sera toujours un petit peu plein, puisque au fur et à mesure que mon condensateur ici se vide, eh bien la tension ici, la tension, elle est en série là, parce qu'on on le voit mal, mais en fait ici cette résistance là, c'est comme si elle était de l'autre côté ici. Enfin, concrètement, on pourrait la mettre aussi ici, que ça fonctionnerait de la même manière. Donc le condensateur il se vide. Ça veut dire que si je le mets ici de l'autre côté, hein, si je redessine mon schéma différemment, c'est que la tension aux bornes de ma résistance va être égale à la tension aux bornes de mon condensateur. Hein, si ce n'est qu'elle est à l'envers. Hein. Attends, il y en a une qui est plus ici et l'autre qui va être moins ici. Mais on s'en fout, la résistance, elle marche dans un sens ou dans l'autre. Hein, c'est un composant qui fonctionne dans les deux sens. Donc l'intensité, au fur et à mesure que mon condensateur se vide, la tension aux bornes de ma résistance diminue, et par conséquence, l'intensité diminue et donc ralentit le vidage du condensateur. Et donc la courbe de la décharge va avoir la même forme, sauf que c'est inversé dans un miroir, va avoir la même forme que la courbe de la charge. Et donc, au bout d'une constante de temps, il restera 37% précisément. Nous, on dit toujours c'est un tiers qui va rester. Au bout de deux temps, c'est un tiers au carré, donc un neuvième, qui correspond ici, dans les vraies valeurs, à 13%. Un neuvième, ça fait 11,1%, et là, dans notre calcul, là, ça fait du 13%, donc on n'est pas trop loin. Et encore une fois, au bout de 5 T, le condensateur sera vide, sauf que dans la vraie vie, il n'est pas complètement vide. Il n'est pas complètement vide, puisqu'il restera 1% de la tension d'origine. Et quand on dit 1% de la tension d'origine, alors dans tous les montages à transistor, il n'y a pas de problème, parce que ces tensions sur les condensateurs, c'est pas très grave, mais quand vous travaillez sur des tubes, s'il vous reste quand même 1% de la tension sur un tube qui est alimenté en 4000 volts, ben, il reste quand même 40 volts. Et puis, bon, évidemment, si vous prenez après du 10000 volts, c'est quand même un peu plus rare dans les stations radioamateurs, mais du coup, si c'est 10000 volts, ben, il reste quand même 100 volts. Et là, ça, c'est dangereux. C'est pour ça que quand on dit toujours, quand on travaille sur des amplificateurs à tubes, il est indispensable auparavant de vider des tubes, c'est-à-dire de les tubes et les condensateurs, puisque un tube, on verra plus tard, mais il y a un petit condensateur à l'intérieur. Donc typiquement les tubes cathodiques qu'on utilisait dans les télés avant les écrans plats, il fallait absolument vider, puisque de chaque côté il y a les plaques de dérivation qui formaient des condensateurs, et ces plaques de dérivation elles étaient alimentées en très haute tension. Donc il fallait absolument vider cette haute tension, et tout simplement en mettant un petit coup de tournevis, histoire de vous mettre une petite résistance une petite résistance en valeur, mais une grosse résistance en termes de puissance à dégager, pour neutraliser cette tension résiduelle sur le condensateur. Voilà. Donc ça c'est très important. Il y a quelques questions à l'examen sur cette charge et décharge de condensateur. La plupart du temps, ça tourne autour de cette formule simplifiée, que l'on, du coup, on multiplie par 5 ce temps, cette constante de temps, on la multiplie par 5 pour obtenir le temps de charge ou de décharge d'un condensateur. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près clair, à peu près simple. Voilà, s'il y a des questions, on peut revenir dessus. Donc, on en a, voilà, on en arrive là au raisonnement inverse pour la décharge dont on vient de parler. Et encore une fois, donc, le condensateur n'est ni jamais complètement vide, ni jamais complètement chargé. Voilà, donc ça c'est pour le condensateur. Pour la bobine, ça va marcher un petit peu de la même manière, sauf que pour la bobine, on va pas parler de tension aux bornes de la bobine, on va parler d'intensité. On va, puisque je rappelle, le fonctionnement de la bobine, c'est plutôt tourné vers l'intensité. Et donc là, c'est l'établissement du courant, donc de l'intensité dans la bobine, ou l'interruption de ce courant via une résistance qui va finalement donner la même courbe. Alors, pourquoi ? C'est que, encore une fois, donc mon fameux phi, je reprends ma formule de base de ma bobine, donc le flux magnétique en Weber, c'est la valeur de la bobine multipliée par l'intensité. Ce flux magnétique en Weber, c'est la tension multipliée par le temps, donc la tension qui est nécessaire pour générer le flux magnétique qui est là, et multiplié par le temps, puisque le Weber, c'est générer un flux magnétique à partir d'une tension pendant un certain temps. Voilà. Donc, si on traduit ça, donc le flux en Weber, c'est une tension multipliée par un temps en secondes, donc est égal à L multiplié par I. Et ici, le U, il va où? Donc le U, il va en dessous. Donc ça me fait le temps multiplié par la valeur de la bobine multiplié par I sur U. Et I sur U, c'est l'inverse de R. Donc c'est L divisé par R. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette formule-là. Donc le temps, c'est L, la bobine, la valeur de la bobine, divisé par R. Alors que là, dans ma formule pour le condensateur, c'est multiplié par C. Donc on voit bien que les deux composants, bobine et condensateur, ça fonctionne de manière identique, mais opposée. Hein ? C'est-à-dire qu'on divise par R, alors que dans le condensateur, on multiplie par R. Alors, il n'y a pas de question, en revanche, sur... j'en ai jamais vu, mais bon, pour autant, on pourrait très bien imaginer qu'il puisse y en avoir... on l'utilise très peu, nous, en tant que radioamateurs, ce phénomène. En revanche, on a un problème corollaire qui est sur les bobines des relais, puisque une bobine de relais, c'est ce qui permet de faire coller le relais. Et du coup, si on interrompt le courant dans un relais, parce que généralement c'est assez brutal, hein, on le met en route, on le fait coller ou on le met en repos, et quand on le fait dans un sens ou dans l'autre, et bien à chaque fois ça génère une tension. Et celle qui est la plus gênante, c'est l'interruption au moment, la génération de tension au moment de l'interruption du courant. Parce que à ce moment-là, la bobine va générer une tension inverse. Hein, pour contrecarrer le fait qu'il n'y ait plus de champ magnétique dedans, enfin qu'il n'y ait plus d'intensité, et donc le champ magnétique continue d'exister, ce champ magnétique va créer une tension inverse pour pouvoir générer une intensité, justement. Et c'est ça qui va poser problème parce que quand on coupe un relais, ça génère une tension négative qui va remonter dans la chaîne d'alimentation et qui donc peut potentiellement amener à générer des problèmes puisque du coup la tension ne va plus être stable. Et pour éviter ça, parce que cette tension elle peut être très importante et des dizaines de fois supérieure à la tension d'alimentation. Donc on peut même éventuellement pour un très court temps se retrouver avec une tension négative en alimentation. Et donc c'est pour ça qu'on met une diode qui, en inverse, qui permet de court-circuiter cette tension. Voilà, c'est ce que disent tous les gens là. Mettons une diode sur le relais, une diode montée à l'envers. Et voilà, donc c'est ce qui explique cela. Et d'ailleurs, c'est le phénomène qu'on va utiliser dans les moteurs à explosion. La bobine, enfin, maintenant il n'y a plus de bobine sur les voitures, je ne vous apprendrai rien. Mais auparavant, c'était ça, c'était le fait de couper le courant dans la bobine qui générait une très forte tension et donc qui permettait de générer l'étincelle sur la bougie. Voilà, donc, et encore une fois, j'ai pas vu de question là-dessus, mais bon, on pourrait, et à mon avis, s'il y a une question, ça sera plus sur la formule que sur des calculs en eux-mêmes. Enfin, c'est dans les, quelle est la formule vraie, quelle est la formule fausse, ça sera plutôt dans ce genre de questions qu'on va trouver ça. Eh bien, petite question. Alors, un condensateur de 100 microfarads se vide par l'intermédiaire d'une résistance de 8 kΩ. En combien de temps le condensateur se videra-t-il? Donc, on précise à moins de 1% de sa tension d'origine pour être certain qu'on applique bien ces fameux 5 constantes de temps, 5T. Donc, je vais vous mettre sur la webcam et on va se faire le petit calcul. Donc, ma constante de temps ON, c'est R multiplié par C, R 8000, multiplié par C 100 microfarads, donc 100 multiplié par 10 puissance moins 6. Voilà, j'écris tout ça. Ça me donne ma constante de temps, exé. Ça me donne donc 8 10 puissance moins 1, donc 800 millisecondes, et je multiplie par 5, puisque ça c'est une constante de temps, donc il faut que je multiplie par 5 maintenant, parce qu'évidemment dans les réponses, c'est certain que vous allez avoir 800 millisecondes au cas où vous soyez trop pressé, donc je multiplie par 5, et ça me donne 4 10 puissance 0, c'est-à-dire 4 secondes. Donc mon condensateur 200 microfarads, qui est quand même c'est un petit condensateur quand même, ça commence à être un joli petit condensateur. Si j'utilise une résistance de 8 kΩ pour le vider, eh bien ça mettra quand même 4 secondes. Alors bon, 8 kΩ, ça fait quand même une grosse résistance, hein, enfin en termes de valeur, mais voilà, on met quand même 4 secondes à le vider. Je reviens sur mon PDF. Et on continue avec le calcul de l'impédance des bobines et des condensateurs non parfaits. Alors, je ne vous apprends rien en disant que les bobines et les condensateurs ne sont jamais parfaits. Il y a toujours une petite partie résistive que l'on appelle résistance pure. Alors, dans le cadre de la bobine, on sent bien que si on a, comme dans mes bobines que j'avais faites là sur mon Thor, si j'ai enroulé 100 spires d'un fil tout fin J'ai quand même, alors je sais pas si j'ai un mètre, mais je dois avoir un peu, enfin, je dois avoir à peu près 2 mètres de fil hein, quand même enroulé là. Ou si c'était 3 peut-être d'ailleurs. Enfin bon, peu importe. Là, on sent bien que si j'ai 3 mètres de ce petit fil là, je vais pas, enfin ma résistance, elle va pas être négligeable. Alors, elle va avoir quelques ohms. Pas beaucoup peut-être, mais enfin bon, du coup, je ne peux pas avoir une bobine pure. Je vais avoir des en série, je vais avoir donc une bobine et une résistance systématiquement. Alors c'est moins vrai dans le cadre d'un condensateur, puisque dans le cas du condensateur, là, bah, les fils du condensateur, ils sont quand même assez courts. En règle générale, quand même, ils sont d'une certaine taille. Donc, voilà, il y a moins de risques d'avoir ici une résistance de perte, finalement, dans le cadre d'un condensateur. En revanche, dans le cadre d'une bobine, on est certain que ça existe. Et donc, le problème, c'est que, ici, la valeur qu'on avait trouvée de ma réactance, hein, ce qu'on appelle la réactance, donc la fameuse formule ici 2πfL, donc oméga L, qu'on avait vu la semaine dernière, je ne peux pas ici additionner cette résistance, cette réactance, avec la résistance qu'il y a là. Je ne peux pas le faire parce que il y a entre les deux un déphasage. C'est ce que l'on avait vu. C'est mon fameux déphasage qui me pose problème, puisque dans le cadre de ma résistance, c'est en phase, tension et intensité sont en phase, alors que ma bobine déphase de 90 degrés la tension et l'intensité. Et donc, je ne peux pas additionner ces deux valeurs-là pour derrière m'en servir pour la loi d'Ohm. Je suis obligé de passer par un artifice. Alors, ici, je vous ai mis comment on y arrivait. On y arrive en ajoutant ce qu'on appelle géométriquement. C'est-à-dire qu'on sait qu'ici, alors là les vecteurs ici réactance et ici résistance, en règle générale, dans une vraie bobine, c'est plutôt la réactance qui est prépondérante par rapport à la résistance, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était pour les schémas, voilà, j'ai trouvé ça. Et puis quelquefois aussi, on met des résistances comme ça, mais c'est voulu. Parce qu'on veut créer un déphasage. Donc, voilà. Donc, voilà, et donc, ce que l'on fait là, c'est qu'on va finalement utiliser de la trigonométrie pour additionner mes deux valeurs là. Donc ça, c'est ma réactance qui est ici, qui est positive, hein, elle est positive, et ici, on a la résistance. Et lorsque l'on met les deux vecteurs bout à bout, donc on prend soit le vecteur ici, on le déplace, on le met au bout du R, et donc ça me donne, l'ensemble va me donner ici ce vecteur Z, qui va être finalement, alors ça va s'appeler ici impédance, hein, alors je rappelle, réactance c'est la formule de que l'on a vu la semaine dernière, qui permet de faire marcher la loi d'Ohm, et donc il me dit que, pendant le cadre de la bobine, Z est égal à oméga L, donc 2πfL. Et donc ça, c'est ce qui va me donner le vecteur réactance. Et donc évidemment, mes vecteurs, là, si par exemple ça fait 2, ici ça doit faire 6, 8, je ne sais pas, enfin bon, c'est de manière linéaire. Et donc l'ensemble ici, bah, ça fera 9, peut-être, voilà, pour faire simple. En tout cas, ça va donner plus que 8, puisque ici, si ça fait 8, ça, ici, ça sera un tout petit peu plus long. Hein. Voilà, donc après, on calcule. Et la formule de calcul, eh bien, c'est ma loi de Pythagore, c'est mon théorème de Pythagore, puisque ici, j'ai un angle droit. Donc, le théorème de Pythagore me dit que, ici, cette longueur-là... Alors, le théorème de Pythagore, il dit quoi? Il dit que, ici, ce carré, ce qu'on appelle ici l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des côtés. Hein, c'est ça le Pythagore pur et dur. En fait, est-ce que l'on va utiliser, nous, c'est pas z au carré, on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est z, et donc on prend la racine carrée de xl au carré plus r au carré. D'accord ? Donc ça va me donner ici l'impédance, donc la longueur ici, cette longueur-là, va me donner ici l'impédance, et donc c'est sur cette impédance que l'on va pouvoir calculer avec la loi d'Ohm. Hein, ce n'est pas ni avec x et encore moins avec r qu'on va pouvoir calculer avec la loi d'Ohm, c'est avec z, donc cette ici, c'est l'ensemble qu'il va falloir faire. Et même chose ici avec le condensateur. Ici je vous ai parlé de la bobine, mais évidemment avec le condensateur ça va marcher de la même manière. Si ce n'est que le condensateur, lui, on voit que ça déphase, mais de 90 degrés en négatif, en retard. D'accord ? Et donc, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est la même longueur de vecteur, ici R, ici XC, donc c'est les mêmes vecteurs, la même longueur de vecteur, et donc ici, ça va me donner aussi la même longueur. D'accord ? Et ce qui est très important, c'est qu'on a aussi l'angle que l'on a ici entre la le vecteur R et le vecteur Z. Donc on a un angle ici, et c'est cet angle-là qui va nous donner le déphasage. Donc le déphasage, donc au lieu d'être à 90 degrés de déphasage, en moins ici pour le condensateur, en plus ici pour la résistance, la bobine, eh bien on va se retrouver du coup avec un déphasage qui va être fonction finalement de la résistance R. Plus cette résistance R est importante par rapport à la réactance, plus le déphasage va s'éloigner des 90 degrés théoriques que l'on a vu la semaine dernière. Voilà, je pense que c'est clair. Je vois pas trop de commentaires sur le chat, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment du basique. Et c'est derrière toute cette... Enfin, une fois qu'on a compris ça, tout derrière va s'enchaîner. Pourquoi ? C'est que lorsque j'ai à la fois... parce que quand on dit un condensateur, donc il y a une partie résistance, ok, et de même dans la bobine il y a une résistance, ok, mais dans le condensateur ici il y a une partie petite, partie impédance, parce que nos fils par exemple ils forment une courbe. Alors ça fait un quart de spire peut-être de chaque côté, mais ça forme une courbe. Dans le cadre de la bobine, l'espace que j'ai entre mes différentes spires, en fait, O ici, c'est pas un angle, c'est l'origine. C'est le O de l'origine. Je n'ai pas encore représenté l'angle, là. On va en parler après. Ici, il n'est pas encore représenté, mais l'angle, il est entre ici, entre le vecteur Z et le vecteur R. D'accord ? Et donc, dans ma bobine, lorsqu'elle n'est pas parfaite, j'ai en plus un petit bout de condensateur, c'est-à-dire entre deux spires, finalement, j'ai des plaques qui sont en vis-à-vis, avec un isolant entre les deux. Donc effectivement, c'est bien l'angle ROZ, exactement. On va y arriver. Et donc c'est ce que je vous indique là-dedans, c'est-à-dire que ma bobine, ici, qui est, ça c'est ma bobine, mais j'ai une partie résistive, qu'on a vu tout à l'heure, c'est mon fil, et il y a une deuxième, qui est finalement l'effet condensateur que l'on a entre les spires. Si les spires, par exemple, ne sont pas jointives, et bien automatiquement, on va avoir, et même si elles sont jointives, d'ailleurs, on a un condensateur, puisque, par définition, mes spires, elles sont isolées les unes des autres. Sinon, ça ne fera pas une bobine. Même chose dans le cadre de mon condensateur, c'est peut-être un peu plus difficile à conceptualiser, mais un condensateur, il y a donc une résistance. Alors, c'est peut-être pas trop les fils. La plupart du temps, dans les condensateurs, et notamment les condensateurs variables, c'est la résistance du frotteur, puisque si on a un condensateur variable, il y a un moment, il y a un contact qui se fait entre une piste et puis la partie mobile. Et donc ça, donc il y a un frotteur, et ce frotteur, ben, au bout d'un moment, soit il s'oxyde, soit il y a de la poussière, soit voilà, enfin, il devient vieux, et donc il y a une petite résistance qui viendra en complément en série. De même, pour certains condensateurs, on va avoir des phénomènes un petit peu inductifs qui vont se faire dans le condensateur. Donc on va avoir à la fois un condensateur, donc avec une grosse valeur, et en série une petite bobine, un petit condensateur. Une petite bobine, pardon. Mais c'est plus compréhensible ici quand on s'occupe ici de la bobine. Hein, mais dans le condensateur, on a exactement le même problème. Et donc ce que l'on va faire là pour avoir l'ensemble, pour avoir l'impédance de l'ensemble, c'est qu'on va mettre, on va additionner tous ces vecteurs. Donc évidemment, le plus important, ça va être le vecteur de la bobine, heureusement, puisque c'est une bobine. Donc à faire, ça doit être le vecteur prépondérant. Mais on va aussi avoir une résistance et un condensateur. Condensateur qui va, lui, finalement annuler une partie de la réactance de la bobine. Parce que si on met bout à bout ces trois vecteurs-là, et ça qu'on le fasse dans n'importe quel sens, là moi j'ai commencé par le condensateur, mais j'aurais pu très bien commencer par la bobine, puis le condensateur, puis la résistance, enfin, en tout cas que l'on prenne ces trois vecteurs-là dans n'importe quel sens, là je les ai pris dans ce sens-là, on va arriver ici. Et ce point-là, on fait donc cette longueur, et ça va me donner l'impédance réelle de ma bobine. Et ici, donc ici, je vais avoir ma réactance positive, mais beaucoup moindre que celle de ma bobine pure, puisque j'ai une partie qui est annulée par le condensateur. Et d'autre part, ici, j'ai ma résistance qui, elle, n'a pas bougé. Et donc, ici, ça me donne ici mon impédance, avec ici l'angle de déphasage. Voilà, donc, voilà, il faut bien que vous compreniez ça. Ça va être revu tout à l'heure quand on va faire la petite vidéo, la petite animation, là, qui est très bien parce qu'au moins, ça met concrètement, ça vous rappelle tous ces trucs-là. Et en plus, c'est très bien fait. Moi, je trouve ça sympa, un peu rigolo. Voilà. Et donc, on est bien d'accord que ce sont des sommes vectorielles. Et donc, quand on définit une impédance, il faut qu'on définisse finalement une réactance positive ou négative. Ici, c'est une réactance positive parce qu'elle vient sur, elle va vers le plus 90 degrés. Elle serait négative si elle allait dans l'autre sens. Et donc c'est pour ça qu'on lui donne un signe. On va l'appeler ici X. On va appeler Z, qui est ici la résultante de la réactance et de la résistance. L'impédance, c'est ça. Et l'impédance, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser la loi d'Ohm et la loi de Joule. Donc ça, c'est très important. C'est ce vecteur-là qui va nous donner la valeur en Ohm de ce que l'on va utiliser quand on va utiliser notre loi d'Ohm. Ici, on a la réactance et ici, on a la résistance. Et quand on veut nommer, finalement, dire mon impédance, qu'est-ce que c'est, faut pas que je dise juste cette longueur-là, parce que ça marche ça pour la loi d'Ohm. Vous avez plein de lois pour lesquelles ça va pas fonctionner. On les verra après, hein. Et donc, il faut déterminer la réactance, positive ou négative, et la résistance. Et donc, la résultante de cette impédance-là, elle aura cette forme-là. Donc, R, plus ou moins, si c'est positif ou négatif, ce J. J, ça veut dire que c'est un déphasage de 90 degrés entre les deux. Et X, qui est donc... c'est R est en ohm. J, c'est J. C'est l'imaginaire. Et X, c'est la réactance qui est aussi en ohm. Et on verra, quand on fera les antennes, que notamment les analyseurs d'antennes, les VNA, ils vous donnent la valeur, l'impédance d'une antenne, non pas en ohm, parce que c'est pas ça qui est intéressant, il va vous le donner sous cette forme-là. Et donc le positionner sur un diagramme de Smith grâce ici à cette définition. Mais évidemment, vous pouvez calculer du coup la valeur de la résistance telle que appliquée à la loi d'Ohm. Mais ça, c'est beaucoup, beaucoup plus précis, notamment quand on va avoir tous nos problèmes d'adaptation d'impédance. Adapter une impédance, ce n'est pas juste s'occuper de la longueur du vecteur, c'est aussi s'occuper de son déphasage. Et là, quand on définit donc de cette manière-là, on définit bien la longueur du vecteur et son déphasage. Oui, il y a une deuxième solution qui consisterait à dire « je donne l'impédance et je donne le déphasage ». C'est aussi une autre solution, mais la solution la plupart du temps retenue, c'est donner une valeur sous cette forme-là. On peut faire les deux, hein, les deux fonctionnent. Alors là, je ne vais pas sortir la calculette parce que c'est quelque chose qui est hors programme. Hein. Ce sont des valeurs qui sont quand même assez compliquées. Et c'est bien pour vous représenter cette schématique. Donc on a une bobine. De 6 microhenries qui est parcourue par un courant de 1,06 méga. Je vous ai mis des valeurs comme ça, c'est pour que à la fin on tombe sur des chiffres qui soient à peu près pas trop cons, parce que sinon c'est un peu compliqué. La résistance pure de la résistance est de 69 ohms. Alors ça, ça reste raisonnable, normal. Pourquoi ? C'est que rappelez-vous, quand on avait fait les courants, notamment la résistivité, je vous avais parlé de l'effet de pot. Et que le fait de monter en fréquence faisait que le courant ne se déplaçait plus qu'à la périphérie du fil. Donc dans ma bobine, quand j'ai mes 2 mètres de fil, là, finalement mes 2 mètres de fil, je n'ai qu'une petite partie de mon fil où je vais avoir du courant qui passe dedans. Et plus je monte en fréquence, plus cette résistivité de mon fil, alors c'est pas de la résistivité, c'est de la résistance, mais au courant alternatif, au courant HF. Et donc on peut pas juste mesurer à l'ohmmètre la valeur de ma bobine. Il va falloir trouver des astuces pour pouvoir calculer cette résistance de ma bobine qui finalement va augmenter artificiellement la valeur de R. C'est ça qui est important. Et ça, on va se le retrouver, ce problème-là, partout par la suite. Donc, ma résistance de 69 ohms, là, c'est pas complètement déconnant. Alors, 1 méga, si, peut-être un petit peu quand même, parce que 1 méga, généralement, on a un effet de peau qui n'est pas trop sensible encore. Mais voilà, si on était monté encore plus haut en fréquence, les 69 ohms, on y arrive très facilement. Donc 6 micro-henri, 1,106 méga. On a une résistance en série, puisqu'elle est, c'est la résistance pure de ma bobine de 69 ohms. Quelle est l'impédance de la bobine? L'impédance de la bobine et son déphasage. On commence déjà par calculer la réactance. Donc la réactance, c'est d'une bobine, c'est 2πfL. 2πfL. Ici, donc je prends mes valeurs, donc 6,28 multiplié par 10 puissance multiplié par 1,06. Et effectivement, Bernard, c'est la section du fil qui diminue avec l'effet de peau. Hein, puisque encore une fois, le courant ne se déplace qu'à la périphérie. Et donc à l'intérieur du fil, même s'il est tout petit comme ça, comme sur ma bobine, à l'intérieur du fil ne passe aucun courant. Donc tout se joue à l'extérieur, sur le côté extérieur du fil. Et c'est pas comme si, hein, c'est à l'intérieur du fil, il n'y a aucun courant. C'est pas comme si, c'est comme ça. D'où l'intérêt pour les fils de bobine, comme ça, de prendre du fil émaillé, parce que le fil émaillé, il y a une couche d'émail, enfin de peinture finalement, qui empêche le cuivre de s'oxyder, et donc, puisque je rappelle, l'oxyde de cuivre quand même, c'est quelque chose qui n'est pas conducteur, et donc si on commence à faire du non-conducteur à l'extérieur, on commence très mal, puisque le courant, justement, ne passe qu'à l'extérieur du fil. Donc il faut absolument peaufiner ce courant-là. Ah oui, je dis comme si, parce que, oui, la section réelle ne diminue pas. Oui, la section réelle, elle ne diminue pas. En revanche, la section où le courant peut passer, elle a bien diminué. Et donc, par conséquence, la section où on peut passer du courant a diminué, et donc la résistivité a augmenté. Pour continuer sur notre exemple, impédance, donc une fois que j'ai ma réactance, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça me fait 40 ohms, vous remarquez quand même que j'ai essayé de trouver une valeur pour que mes 6 micros et mes 1,06 méga me donnent une valeur pas trop con en ohms pour la réactance. Donc mon impédance, je vais ici utiliser mon théorème de Pythagore avec mes 69 ohms. Donc l'impédance, c'est R au carré, enfin racine carrée de R au carré plus la réactance au carré, donc racine carrée de 69 au carré plus 40 au carré, et ça me donne à peu près 80 ohms. Donc, si on reporte ça ici sur mon schéma, en prenant ici des valeurs qui sont... où j'ai respecté ici les échelles. Hein. Donc j'ai la même échelle ici en réactance qu'en résistance, donc ici j'ai plus J40, hein, c'est comme ça qu'on doit l'écrire, la réactance, plus J40, puisqu'elle est positive, c'est une bobine, et ici j'ai 69 ohms. Donc l'ensemble ici va me donner ici 80 ohms. Et ceux qui ont fait de la trigonométrie vont se rappeler que si ici mon hypoténuse fait 80 et ici mon sinus fait 40, eh bien mon angle ici est de 30 degrés. Ça, et si vous vous en souvenez pas, eh bien vous ressortez votre calculette et vous calculez donc l'arc tangente, donc l'inverse de la tangente. Hein, la tangente, c'est ce qui va, à partir d'un degré, donner le rapport entre l'hypoténuse et le sinus. D'accord ? Et donc l'arc tangente, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un rapport et donc on en déduit un degré. Alors il y a sur certaines calculettes, enfin, tout au moins si vous utilisez Excel, arc tangente, ça va vous sortir non pas en angle, mais en pi radian. Donc en nombre de radians. Donc il faudra multiplier par 360 degrés, divisé par pi, divisé par 2pi, multiplié par 360, pour arriver à 30 degrés. Voilà, ceux qui veulent utiliser Excel pour s'amuser à calculer tout ça. Mais sinon, les calculettes du style d'Acasio, là, c'est très bien le faire toute seule, et elle va l'afficher en degrés tout de suite. Donc c'est quand même assez sympathique. Voilà. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, donc, c'est mon intensité, puisque mon signal de référence, c'est toujours l'intensité, ou ma tension d'entrée, comme on veut. Et ici, la tension aux bornes de ma résistance, de ma bobine, elle va être ici déphasée en avance de 30 degrés. Donc entre les deux, là, c'est mes fameux 30 degrés. Hein, où ici, je pars ici de 0, et ici, je démarrerai avec 30 degrés d'avance. Et donc, ça repart ici. Donc ça, c'est quand je suis en avance, déphasé de plus 30 degrés. Et si, ici, par exemple, en vert, j'ai un déphasage de moins 90 degrés, donc avec un condensateur parfait, sans résistance, sans bobine. Voilà. Et donc, lui, le condensateur, il va être en retard. Donc voilà, il faut bien que vous ayez ça en tête, parce que après, quand on va, évidemment, on va pas en rester là, on va mélanger bobine et condensateur. Pour l'instant, on les a vus séparément, et alors pas dès la semaine prochaine, puisqu'on va parler des transfos la semaine prochaine, donc un cas particulier de bobine, mais dans le chapitre 4, on va parler de l'association bobine-condensateur. Et là, du coup, on va commencer à voir quelles sont l'association fait que les deux déphasages s'annulent. Alors encore une fois, effectivement, il faut bien codifier le triangle. Voilà, et l'angle ici qu'on a ici. Donc ce problème de composants non parfaits, on vient de le voir, ça me génère des déphasages inférieurs à 90 degrés entre la tension aux bornes du condensateur et l'intensité qui est parcourue par le composant. Et donc on va voir dans tous les montages de la soirée que, alors déjà dans tous les schémas, à chaque fois la valeur de référence c'est l'intensité, c'est-à-dire que dans tous mes déphasages, là, la référence est toujours l'intensité. Pourquoi ? Parce que dans tous les schémas, dans tous les montages, l'intensité, c'est toujours la même. Partout dans un schéma, l'intensité est la même. C'est ma loi des nœuds. Mes électrons, l'intensité, encore une fois, ce sont des électrons, et les électrons, il ne peut pas en disparaître, il ne peut pas en apparaître, comme ça, par magie. Ils sont dans le circuit, et ils sont tous ensemble dans le circuit, et dans le même sens. Et donc, ce qui va différencier à chaque fois, c'est juste la tension. Eh oui, alors là, un truc aussi important, le calcul de l'impédance que l'on vient de voir, ça permet d'appliquer donc la loi d'Ohm, mais attention, quand on applique la loi de Joule, là ça va être un peu plus compliqué, puisque tension et intensité ne sont pas en phase. La loi de Joule, elle ne marche que si tension et intensité sont... La loi de Joule, c'est donc P égale UI, et P égale UI aux bornes d'une résistance, et si et seulement si U et I sont en phase. S'ils ne sont pas en phase, ma loi de Joule, elle se complique, et on est obligé de rajouter ici le déphasage, mon cosinus phi. Si bien que quand on réfléchit un petit peu, ma bobine comme mon condensateur, comme il déphase de 90 degrés, automatiquement, il ne consomme aucune énergie, puisque je multiplie par mon cosinus phi. Le cosinus phi, c'est plus 90 ou moins 90, et de toute façon, que ce soit plus 90 ou moins 90, ça me donne 0. Donc, ma bobine et mon condensateur, la puissance consommée par une bobine ou un condensateur parfait, c'est 0. En revanche, évidemment, si ma bobine et mon condensateur ne sont pas parfaits, bah, c'est ma résistance parasite qui va, elle, consommer. C'est évident. C'est-à-dire que si la bobine chauffe, c'est pas à cause de sa valeur en Henri, c'est à cause de sa résistance parasite. Et c'est pour ça qu'elle chauffe, c'est tout. Sinon, elle ne chaufferait pas. Alors, positif, la tension en avance sur le courant, oui. Alors, ce qui est représenté ici en rouge, c'est l'intensité. Donc, en bleu, c'est la tension, et donc la tension est en avance dans le cas de la bobine, plus quelque chose, hein, je suis positif. Dans le cadre de mon condensateur, je suis en retard. Voilà, et d'où les kappas énormes de mon ancien boulot qui permettaient de récupérer le cosinus phi, puisque M. EDF n'était pas content, puisqu'on bousillait son calcul de puissance, puisque M. EDF il est quand même rémunéré par rapport à la puissance que l'on consomme. Donc si on commence à lui rajouter du déphasage, eh bien en fait, son compteur, il ne sait plus compter. Alors, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les gens qui sont connectés au même réseau. Donc, tous les particuliers qui étaient connectés sur le même réseau. Voilà, ça c'est important, que vous ayez bien ça en tête. Il n'y a pas de question à l'examen là-dessus, mais que vous ayez bien ça en tête. C'est important. Alors, on revient un petit peu en arrière, on revient sur nos résistances. Souvenez-vous, quand on avait fait la présentation du composant, je vous avais montré une autopsie de résistance. Donc ici, c'est mon petit barreau en porcelaine, c'est une sorte de porcelaine en fait, avec dessus une espèce de peinture je suppose, un peu de carbone ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est un petit peu conducteur. Et donc, on voit ici, il y a une spirale ici qui est creusée pour arriver à la valeur exacte de la résistance. Donc, en fait, quand on regarde ça, on voit que, effectivement, c'est une belle résistance, mais en plus, on a ici en série une bobine, avec une valeur qui ne doit pas être négligeable, je pense, parce que quand on voit ici le nombre de spires, ça va commencer à... Voilà, il va commencer à y avoir un peu d'inductance. Et d'autre part, ici, j'ai mes deux embouts, là, qui permettent de faire le contact avec les fils qu'il y a derrière. Hein. Donc les deux embouts qui sont juste enfoncés de force, hein, tout simplement, hein, ils sont juste sertis. eh bien ici ça me fait un condensateur. Donc j'ai à la fois en série une résistance, une bobine, un condensateur. Et donc c'est un peu compliqué là. Du coup, ces résistances là qui sont pas très chères vont avoir un très mauvais comportement quand on va être en haute fréquence. C'est-à-dire, grosso modo, à partir de l'UHF, donc de 432 mégas, typiquement ce genre de matériel est à proscrire. En revanche, on a remarqué que grosso modo, les résistances dont la valeur est supérieure à 300 ohms, elles ont plutôt un effet capacitif, c'est-à-dire que il n'y a plus trop l'effet bobine, mais c'est plutôt l'effet capacitif qui prédomine. Et quand on est en dessous de 100 ohms, là, c'est un comportement plutôt inductif, c'est-à-dire que c'est plutôt la bobine qui va avoir un effet prépondérant. Donc, c'est pour ça que souvent dans les montages UHF ou au-delà, donc à partir de 432, on va avoir des montages avec des résistances qui font 150-200 ohms. Pourquoi ? C'est que à ces fréquences-là, les deux phénomènes vont s'annuler. C'est-à-dire que le vecteur de la bobine va être plus ou moins égal au vecteur du condensateur, et donc les deux vont s'annuler, et il ne va rester finalement que la résistance, et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, aux alentours de 150-200 ohms, grosso modo, on va avoir les deux effets qui s'annulent, et c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de composants. Alors, par exemple, si vous avez besoin d'une résistance qui fait 1000 ohms, eh ben, on va mettre 5 résistances de 200 ohms. Alors, 200 ohms, ce n'est pas du standard, 220 ohms ou 180 ohms, bout à bout, pour arriver à la bonne valeur. Et quand on voit ça, on a l'impression que que celui qui a fait le montage a fait ses fonds de tiroir pour y arriver. Et bien non, parce que finalement, c'est qu'on a ces résistances-là qui ont cette capacité à annuler ces deux phénomènes inductifs et capacitifs. Pour terminer, j'aurais dû faire d'abord l'inverse, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le facteur Q, donc c'est le facteur de qualité d'une bobine, et le facteur de qualité notamment d'une bobine. Condensateur, encore, on n'en parle pas trop, mais c'est surtout la bobine, puisqu'on a vu que on a un gros problème avec l'effet de peau sur le fil, le facteur de qualité, c'est le rapport entre l'énergie emmagasinée, donc la réactance, et puis d'autre part la résistance, c'est-à-dire l'énergie qui est dissipée en chaleur. Et donc, la réactance, on peut dire aussi de l'impédance, le coefficient de qualité, c'est le rapport de l'impédance divisé par la résistance. Alors évidemment, cette impédance, elle va varier en fonction de la fréquence, c'est-à-dire que plus dans le cadre de la bobine, plus la fréquence augmente, plus l'impédance augmente. Et donc, à la limite, on se dit, plus on monte en fréquence, plus le facteur Q est meilleur. Et dans le cadre d'une bobine, ça ne marche pas exactement comme ça, puisque on a vu qu'il y avait aussi la résistance. Et la résistance, son problème, c'est que elle va augmenter aussi avec la fréquence, puisque, encore une fois, l'effet de peau. L'effet de peau, finalement, va contrecarrer en partie l'effet ici bonificateur qu'on a sur l'augmentation de l'impédance avec la fréquence. Donc ce coefficient de qualité, c'est donc Z divisé par R, et c'est aussi égal à l'inverse du cosinus phi. Donc le déphasage à la fréquence, dont on parle, enfin, qui est mesuré donc à Z, à l'impédance. Donc on a deux manières de calculer, et évidemment, plus on a un cosinus phi qui est faible, donc proche de zéro, donc avec R faible, plus on va avoir du coup un coefficient de qualité important. Voilà, donc pas de questions à l'examen, voilà, mais faut que vous en soyez bien conscient, parce que quelquefois on donne le facteur Q des bobines ou des condensateurs à une fréquence. Donc voilà ce que c'est que ce facteur Q et d'où ça sort. On va le revoir régulièrement, le facteur Q, dans différents cas, mais c'est toujours le rapport entre l'énergie emmagasinée et l'énergie dissipée. Alors, j'ai rajouté ça, c'est plus pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, et ça c'est, on a vu donc le côté résistance, inductance, réactance, impédance, sachez qu'il y a la même chose, puisqu'on a parlé quand on avait fait les résistances, de la conductance, qui est donc l'inverse de la résistance. Donc la conductance, c'est la faculté d'un matériau à laisser passer du courant, alors que la résistance, c'est l'inverse, c'est la faculté d'un matériau à ne pas laisser passer le courant. D'accord ? Donc la conductance, c'est l'inverse de la résistance, hein, c'est 1 sur R. Et du coup, la loi d'Ohm, elle devient I est égal à U multiplié par G. Hein? La loi d'Ohm me dit I égale à U sur R, mais comme quand je transforme R en conductance, je multiplie donc par la conductance. On sent bien que l'intensité, plus je vais avoir un matériau qui laisse passer le courant, et plus j'ai de tension, plus je vais avoir d'intensité. Donc la loi d'Ohm avec la conductance, ça devient I est égal à U multiplié par G. La susceptance, c'est l'inverse de la réactance. Et donc là, c'est mesuré non plus en Ohm, mais c'est mesuré en Siemens. Et donc, on inverse les valeurs ici de mon calcul pour ma bobine et mon condensateur, hein. Dans le cadre de ma réactance, l'impédance est égale à 1 sur oméga L, et là, est égale à oméga L, et la réactance de mon condensateur, c'est 1 sur oméga C, et là, évidemment, ça va être l'inverse. Et enfin, l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance, donc la somme arithmétique, enfin géométrique, pardon, de ma susceptance et de ma conductance. Voilà, donc ici vous avez une représentation avec avec l'intensité et la résistance ici en positif, je dirais, et donc ici plutôt avec les système résistance, réactance et impédance, et ici la réciproque avec le système conductance, susceptance et admittance. Alors bon, si vous comprenez pas, c'est pas très grave. Oui, et Siemens, c'est exactement, c'est comme les téléphones, hein, c'est le même monsieur qui avait créé les téléphones que celui qui a eu, dont on a donné le nom pour la conductance. C'est le même. Voilà, donc, mais si, encore une fois, si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave. C'est pour que vous. Ça va nous servir Essentiellement, si vous travaillez sur les antennes et notamment avec les abacs de Smith, c'est bien de temps en temps de repartir non pas en résistance mais en conductance. Et donc il faut refaire tous les calculs à l'envers finalement. Voilà, mais c'est des fois c'est pas mal, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Donc en fait, on inverse tout. On inverse aussi les signes. Dans le cas du déphasage, puisque le déphasage du coup est dans l'autre sens. Quelques questions posées à l'examen, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, il y en a quelques-unes quand même. Quelle est la formule exacte? Donc, alors quand je vous disais qu'il y avait pas de formule sur le temps de charge et de décharge de la bobine, et ben c'est faux, il y en a quand même une. Pas de chance, c'est celle-là qu'il faut trouver, puisque voilà, les temps de charge là, donc R divisé par L, T égale R divisé par L, ou L divisé par R, ou 1 sur 2 pi sur RC ou R divisé par C. Je rappelle, pour le condensateur, c'est R multiplié par C, et pour la bobine, c'est L divisé par R. Alors j'aurais pu aussi, pour éviter de vous perturber, dire C multiplié par R et L divisé par R. Voilà. Mais voilà, la formule classique, c'est R multiplié par C. C'est pour ça que je l'ai laissé dans cette formulation-là. Donc évidemment, la bonne réponse, c'est le temps de charge ou de décharge de la bobine, et c'est L divisé par R. Il y a aussi quelques questions sur le déphasage. Je ne savais pas trop où les coller, et finalement je les ai mis dans ce chapitre là parce que on a parlé, c'est la première fois qu'on parle réellement de déphasage. On va en parler encore plus tard, mais voilà, quand on voit ce que c'est qu'un déphasage, on le voit essentiellement la première fois à ce moment-là, et donc c'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là, et ce sont des déphasages qui peuvent ne pas être classiques. Donc ça, c'est un déphasage assez classique. On ne demande pas si c'est positif ou négatif, là on vous a mis, on n'a pas mis de valeur, mais évidemment ici, celui en pointillé est en déphasage ici de 90 degrés par rapport au très plein. Et 90 degrés en avance, donc positif. En supposant que la valeur ici en très plein soit la valeur de référence. Et la valeur en pointillé, que c'est la valeur, la valeur annexe, quoi. Et donc ici, on est à plus 90 degrés. Pourquoi ? On voit bien ici, quand je suis à zéro, ici, je suis au maximum. Et quand je suis au maximum ici sur mon signal de référence, je suis à 0 ici sur mon signal annexe. Voilà, donc j'ai bien un déphasage de 90 degrés. Ici, en revanche, alors ces valeurs-là, T divisé par 2, T, U et I, rouge et bleu, là, ne servent strictement à rien, si ce n'est que à perturber tout le monde. Et on vous demande déphasage tension-intensité, et on vous donne ici des farads, enfin des valeurs de condensateur. Évidemment, un déphasage ne se mesure pas en farads. Un déphasage, ça va se mesurer en degrés. Et donc, évidemment, ce n'est aucune des réponses proposées. Évidemment, on va... Alors déjà, un condensateur et d'une ne peut pas, quelle que soit sa valeur, donner un déphasage supérieur à 90 degrés. Alors qu'ici, on a 180 degrés, ils sont déphasés de 180 degrés, puisque quand on a un maximum ici, on a un minimum là, et inversement. Donc, ça, c'est un déphasage de 180 degrés. Et ce déphasage de 180 degrés, ben, je ne sais pas le générer à partir d'un condensateur. Et donc, voilà, donc c'est aucune des réponses proposées. Ça, c'est une question très tordue quand même, j'en conviens. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme question. Alors, il y a quand même quelques-unes qui tournent autour ici du déphasage, avec une un peu tordue sur le déphasage à 45 degrés. Alors, je ne sais pas trop si ce déphasage à 45 degrés, c'est facile à voir à l'écran. Il me semble que le candidat n'a pas eu trop de soucis à le repérer, mais voilà. Enfin, un 180 degrés, un 90 degrés, c'est assez visible. Quand c'est un 45 degrés, bah, on ne sait pas trop. Enfin, si c'est un 45 ou un 30 degrés, franchement, je ne sais pas trop comment on arrive à trouver ça précisément. On en arrive au montage de la soirée. Et donc, première chose, on va fonctionner donc avec ce fameux, les fameuses figures animées, qui doit être en fonction, si je ne m'abuse. Alors, voilà, donc figure animée pour la physique. Ici, donc c'est un, ça s'appelle étude de filtre. Voilà. Étude de filtre. Ici, donc, j'ai mon générateur. Un générateur qui me bouger la fréquence. Je peux bouger la fréquence. Je ne peux pas bouger la tension. Ça va me générer ici une sinusoïde bleue. Et ici, ce que je mesure, finalement, je le mesure soit ici, soit ici, là, entre ces deux points-là. Moi, ce que je vais garder, c'est cette valeur-là que je mesure, voilà, parce que j'ai décidé. Et donc chaque endroit vide là de mon schéma, il faut que je le remplisse ici avec mes petits composants, ma boîte à composants. J'ai une résistance, une bobine, un condensateur, ici un fil qui me permet de lier deux points. Et ici, je dis au logiciel, eh ben, c'est pas connecté. Donc, il faut absolument remplir les quatre trous ici en disant ce que je veux mettre. Je vais commencer par la bobine. Je prends la bobine, je la mets là. Ensuite, je prends la résistance, je la mets ici. Je pourrais la mettre aussi ici, hein, ça ne change rien, c'est exactement pareil. Ici, je vais lui mettre une valeur de 2 kΩ. Voilà, 2 kΩ. Ici, je vais mettre ici un fil pour connecter ça. Et enfin, ici, mon dernier trou, je mets ici pas de contact. Et voilà. Donc, le système, voilà comment ce que je mesure ici, c'est la tension aux bornes de ma bobine. On voit ici que plus... Enfin là, j'ai un déphasage. Alors, un déphasage de combien? Je ne sais pas trop. Allez, un déphasage de... allez, 60 degrés peut-être. 60-70 degrés. Enfin, pas 90, mais plutôt entre 60-70 degrés, par là. Et lorsque je fais varier ici ma fréquence, donc... Lorsque j'augmente ma fréquence, automatiquement la valeur de ma bobine augmente et mon déphasage se rapproche de zéro. Pourquoi ? C'est que ici, toute la tension est en fait dans la bobine, puisque l'impédance de la bobine augmente par rapport à la valeur de la résistance ici, qui est très faible. Alors, je vais aussi regarder les retours que j'ai ici, sur le chat, sinon je vais me retrouver coincé comme tout à l'heure. Voilà, et donc si je diminue ici la valeur de mon générateur, on voit bien que j'ai mon déphasage ici, qui augmente et qui, lorsque je descends complètement, les deux sont en phase. Quasi. Enfin, elles sont en phase, les deux. Et voilà. Et donc, c'est au fur et à mesure que j'augmente ma fréquence. Alors, évidemment, c'est en phase, mais ces deux courants continuent, hein, évidemment. Puisque dans ma bobine, bah, je n'ai pas de tension sur ma bobine, puisque ma bobine, en théorie, elle ne laisse passer que le courant. C'est comme si j'avais un fil ici. Alors, si je fais ça, je tiens la même chose. Je reviens avec ma bobine. Donc, j'augmente ma fréquence. Et plus j'augmente ma fréquence, plus ici, j'augmente ici ma tension. Et mon déphasage est plus faible. Alors qu'ici, il est au maximum. Puisque ici, je suis à 90 degrés et ici à 0. Lorsque je mets un condensateur à la place, je vais obtenir le phénomène inverse lorsque j'augmente en fréquence. Alors évidemment, je suis limité, hein, je ne peux pas aller à l'infini, mais si j'allais à l'infini, ici, ma courbe, elle serait plate. Inversement, lorsque et donc là, j'ai un déphasage qui se rapproche de 90 degrés, sans jamais l'atteindre, puisque pour l'atteindre, il faudrait que je sois ici à l'infini. Et inversement, lorsque je me rapproche de zéro, ici, je suis en phase, les deux sont bien en phase. Ma ligne bleue et ma ligne rouge sont bien alignées l'une sur l'autre, donc elles sont bien en phase. Voilà. Et donc ici, elles sont déphasées de 90 degrés. Ce que l'on peut essayer de faire aussi, c'est une bobine ou un condensateur non parfait. C'est-à-dire que là, au lieu de mettre un fil, ici, je mets une résistance. Et lorsque je mets cette résistance-là avec une bobine, on voit que je suis en phase. Mais parce que ici, c'est ma valeur de la résistance qui est trop importante, lorsque je diminue la valeur de ma résistance, je me retrouve ici. Et donc là, si je la mets à 0, je me retrouve tout à l'heure comme quand j'étais ici, c'est la même chose. Hop, je la remets là. Et plus j'augmente la valeur de la résistance, plus je diminue mon déphasage. Inversement, si je mets le condensateur, on va avoir le même phénomène. Si je suis ici à 0, je suis complètement déphasé, dans l'autre sens évidemment, et plus je mets de résistance, plus le déphasage s'annule. Voilà. Et je suis obligé de garder ici une résistance, parce que si ici je mets rien, eh ben, il ne se passe plus rien, puisque ici toute la... je mesure quelque chose où tout va à la masse. Donc il faut que je laisse ici une résistance qui est finalement ma résistance de charge. Qu'il faut que je laisse un petit peu, pas trop, mais que j'en laisse un petit peu. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez aussi un autre mode ici qui est intéressant. Donc ça c'est mode oscilloscope. Et ça c'est mode, le gain, on verra ça quand on fera les associations de résistance de condensateur et de bobine. Et ici, le déphasage. Et donc, si je mets ici un condensateur, ça me donne un déphasage négatif. Si je mets ici une bobine, ça va me donner ici un déphasage positif. Voilà. Donc, désolé pour tout à l'heure, je vous ai fait un peu peur. Mais maintenant, on va passer à la webcam. J'y passe tout de suite. Ma webcam, je vous présente donc mon petit générateur dont l'affichage ne fonctionne plus, c'est pas grave, parce que sur mon oscillo, en revanche, j'ai la fréquence qui va s'afficher. Alors la fréquence, vous n'allez peut-être pas trop la voir parce qu'elle est un peu pâlote. J'ai essayé de rajouter un peu de contraste, mais après, la webcam n'aime pas trop. Donc je laisserai comme ça, je peux moi le dire, c'est le principal. En jaune ici, c'est le signal qui est envoyé au circuit, donc il arrive ici sur la sonde ici que je récupère. Donc ça c'est le signal jaune qui est donc le générateur. Et le signal bleu, c'est ce que je vais ici mesurer aux bandes de mon circuit, ma bobine ou mon condensateur, selon ce que j'aurai mis. Là, pour le moment, j'ai mis la bobine, et on reconnaît bien la bobine, puisque ici, j'ai bien mon déphasage de mon avance, hein, puisque mon signal, il est bien ici, donc il va arriver ici, et celui-là, il est bien en avance par rapport à mon signal de mon générateur. D'accord ? Lorsque je fais bouger ma fréquence, donc là je vais diminuer ma fréquence, plus je diminue ma fréquence, plus mon déphasage est important. Et plus j'augmente ma fréquence, moins j'ai de déphasage. Ils sont quasiment en phase après. Et vous remarquez aussi, ici, la tension. La tension, ici, alors, je vais vous avancer la webcam pour que vous voyez mieux l'écran de l'oscillo. Allez, voilà. Donc, ici, j'ai une fréquence maximum de mon générateur, avec ici une tension. Alors, la tension en jaune ici, c'est donc... alors, j'ai affiché ici les tensions de pointe à pointe, hein, parce que mon bel oscilloscope, il y a plein de fonctions, et en particulier une qui est très bien, c'est qui évite de s'amuser à mesurer avec les carrés. C'est, il donne ici directement le pointe à pointe ici de ma tension d'oscillateur qui est donc de 2,80 volts, parce que ça bouge un peu, mais c'est 2,80 volts en moyenne. Et ici en bas, donc ça c'est la tension, j'ai la tension moyenne, enfin, la tension pointe à pointe aux bornes de ma bobine là, et là c'est 2,24 volts. Et plus je vais diminuer ma fréquence, plus cette tension, puisque mon impédance elle diminue, plus cette tension va diminuer. Et pour arriver, quand je suis en début de course de mon générateur, donc aux alentours de 50 kHz, voilà, 85 kHz, là je suis à 640 millivolts, donc j'ai quasiment plus rien. Donc il faut que je remonte un peu. Et plus j'augmente en fréquence, plus automatiquement, avec mon circuit, j'ai de l'impédance sur ma bobine. Évidemment, je ne peux pas avoir plus de 2,80 volts, qui est la tension de mon générateur. Mais voilà. Et si je change ma bobine et que je mets le condensateur à la place, donc je retire ma bobine, je mets le condensateur, alors que je ne me plante pas d'endroit où le mettre, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc j'ai mis mon condensateur. Je suis à une fréquence très élevée, donc c'est l'inverse de ma bobine. Ici, je vais avoir une tension de sortie très faible, puisque plus je vais avoir une fréquence élevée, plus mon condensateur va avoir un effet court-circuit. En revanche, quand je diminue ma fréquence, la tension, elle, va augmenter. Elle était donc de 600 millivolts quand j'étais au maximum, et là, elle est à 2 volts, voilà, 2 volts 12, quand je suis arrivé au minimum de ma mesure, donc 2 volts 16. Donc j'ai bien le même effet que ce que j'ai vu tout à l'heure, avec mes figures animées. Ce que je voulais aussi vous montrer, que je ne peux pas faire avec les figures animées. Bon, on va se mettre... voilà, à peu près dans ce coin-là. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était la transformation qu'opère une bobine ou un condensateur sur la forme du courant. Ici, je vous ai mis donc en signal sinusoïdal, mais si je passe ici en signal triangle, donc on voit bien ici, je suis passé en signal triangle, pour autant, le signal aux bornes de mon condensateur, il n'a pas la forme triangle, mais il a une forme plutôt sinusoïdale, mais pas une sinusoïde parfaite comme on l'avait tout à l'heure. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est très lisible sur la mise au point. Je vais essayer de faire une mise au point un peu mieux. Je vais augmenter ça. Dans l'autre sens. Voilà. Je pense que c'est un peu plus lisible comme ça, avec cette mise au point. Alors c'est une mise au point manuelle, c'est pas génial, mais c'est peut-être un peu mieux que... Voilà. Et donc là, on voit bien là le triangle. Là, on voit bien le triangle. Et donc là, alors c'est une fonction qui n'est pas sinusoïdale, hein, c'est un peu, elle est un peu tarabiscotée, mais voilà. Mais en tout cas, elle n'est pas triangle. Et même chose lorsque je passe en signal carré. Encore une fois, alors déjà c'est pas un super carré, hein, comme vous pouvez le voir, il y a plein de d'irrégularités, mais en tout cas là on voit bien la charge et la décharge du condensateur. Et c'est pas du tout une fonction, alors ni sinusoïdale ni carré, c'est encore un truc tordu qu'on a fait. Et pour si on utilise la bobine, on va avoir une déformation propre à la bobine, mais qui va donner alors pourquoi ça ah oui parce que évidemment j'ai plus rien, donc ça c'est ma bobine, et on voit bien ici ma bobine, j'arrête le courant de la bobine et donc elle me fait un rebond. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Souvenez-vous, quand je vous avais dit qu'il fallait, quand on arrêtait le courant de la bobine, ici, ça, enfin, moi je le retourne, ce qui revient au même, et donc là, elle me génère des pointes pour éviter de... réinverser le sens de son champ magnétique. Ah. Et d'autre part, si je fais ici en triangle, alors on a une forme qui est quand même plus proche de la sinusoïde que du carré qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc pour vous dire que la bobine et le condensateur, quand ils sont en présence de courants autres que de courants sinusoïdaux, eh bien ça déforme énormément les courants. Et donc ça peut aussi être des choses qui vont peut-être nous intéresser. Hein. Ça c'est encore tout dépend de ce que l'on veut faire comme manip. Là, ouais, exactement, on passe à la montagne russe avec les bobines. Je reviens sur mon PDF avant de faire des bêtises. Hop, je ferme ça. Voilà, je vous ai tout montré. Ouais, là, c'était au cas où vous ayez mal. Voilà, je vous ai mis le montage. Donc ici, j'ai mis une petite résistance ici de 2,2 kΩ. Et puis ici, j'ai branché alternativement la bobine et le condensateur. ici mon générateur, la sonde du générateur, la jaune, elle était ici, la bleue, parce qu'il y a, c'est la trace bleue sur l'oscillo, elle était ici, donc, avec les deux sondes reliées à la masse, côté masse, et évidemment, et voilà, donc, et les différents déphasages, donc, soit du condensateur, donc le retard, ou l'avance dans le cadre de la bobine. Voilà, donc, s'il y a des questions, ben, n'hésitez pas. On va passer maintenant à la petite animation que je vous avais promis. Alors, je vais essayer de ne pas me planter. Donc, alors, il y a toute une série qui a été éditée dans les années 2000, par là. Je ne me souviens plus précisément, mais en tout cas, c'est toujours disponible. Ça avait été créé par EDF et mis à disposition donc sur leur site. Il y a 24, même plus, il y a une trentaine, non, 26 épisodes, voilà. 26 épisodes. Chaque épisode, c'est à peu près 5 minutes. Au départ, c'est essentiellement tourné vers l'électricité, mais l'électricité, le système électrique, pas spécialement radio, hein, c'est vraiment système électrique. Et donc, il y a quelques épisodes où on va parler notamment de courants alternatifs, de bobines, de condensateurs et de résistance. Et donc, ça a été créé par Jacques Rouxel, qui est le père des Shadocks. C'est pour ça que ça ressemble à un Shadock. Alors, il n'y a pas la voix de Claude Pieplu, mais voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous écoutiez bien le texte, parce que tout est important dans le texte de cette présentation. Donc, je vais mettre l'audio du... couper mon micro et mettre l'audio du bureau. Donc il faut que je lance ce beau truc là. Ouais, autorisé, vas-y. Alors, hop. Alors. Alors, comment mettre ça? 1-1-1-1-1. Alors j'ai de la pub.
En alternatif, on l'a déjà dit, 2 et 2, cela ne fait pas toujours 4. Prenons un circuit avec, branché en série, des résistances et des réactances, bobines et condensateurs. On a une source alternative qui va nous débiter un courant d'une fréquence de, disons, 50 Hz, si elle veut bien. Monsieur Volta est chargé de mesurer les tensions efficaces entre deux points quelconques du circuit. Supposons qu'il trouve 30 volts de là à là, et 20 volts de là à là. Eh bien, de là à là, il ne trouvera pas 50 volts, ça je vous le garantis, n'est-ce pas, monsieur Volta? Alors c'est là qu'il faut faire venir monsieur Fresnel, inventeur et grand bienfaiteur des étudiants en hautes études électriques, qui va nous expliquer tout ça avec des flèches tournantes. Notre circuit étant un circuit série, l'intensité est exactement la même en valeur et en phase en tout point du circuit. L'axe de la flèche intensité va donc nous servir de repère. C'est l'origine des phases, comme on dit. Aux bornes de la résistance, on sait que la tension est en phase avec l'intensité. Aux bornes de la bobine, on l'a vu aussi, la tension est déphasée en avance de 90 degrés. Maintenant, 30 volts en phase et 20 volts déphasés de 90 degrés, ça donne quoi comme résultat ? Eh bien, M. Fresnel nous dit qu'il suffit de faire simplement ceci et de mesurer la longueur de la nouvelle flèche, ce qui ferait 36 volts. M. Volta, s'il vous plaît, Eh bien oui, c'est ça. Monsieur Fresnel nous fait remarquer qu'on arriverait au même résultat en mettant les flèches bout à bout, comme cela. Et cette tension résultante aux bornes de l'ensemble, résistance bobine, est déphasée en avance toujours, mais d'un nouvel angle désigné sous le joli nom d'angle phi. Notre mathématicien de service fait remarquer que cela se calcule très facilement, mais ce n'est pas le moment. Sachez seulement que cet angle phi joue un rôle très important pour les problèmes de puissance, mais continuons nos réjouissances. Aux bornes d'une résistance et d'un condensateur, la manip est la même, sauf que bien sûr, la tension aux bornes du condensateur serait de 90 degrés en retard sur l'intensité, et la tension résultante aux bornes de l'ensemble serait en retard d'un certain angle phi. Et aux bornes de l'ensemble bobine condensateur, il va trouver combien, monsieur Volta? Eh bien, il trouve 0 volt. Remettez-vous, monsieur Volta. 20 volts déphasés en avant de 90 degrés et 20 volts déphasés en arrière de 90 degrés, les deux flèches mises bout à bout, ça fait bien 0, vous voyez? Pour tout vous dire, on a joué un tour à notre bon monsieur Volta. On a pris le cas particulier où les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur étaient exactement égales. Mais ce n'est généralement pas le cas. Ainsi, la tension résultante et le déphasage aux bornes de l'ensemble se calculent grâce à ce diagramme fort simple. Remarquez, on aurait pu épargner à M. Volta tout ce tracas de mesures de tension en se servant simplement des valeurs de la résistance et des réactances. Car reprenons notre triangle des tensions du début. Si je divise les tensions par l'intensité efficace, qui est la même dans les deux, ne l'oublions pas, on obtient un nouveau triangle, semblable au premier, dans lequel, en particulier, l'angle phi est le même. Or, on connaît nos formules. Les tensions divisées par l'intensité, c'est la résistance, c'est la réactance inductive, c'est la réactance capacitive. Ainsi, on peut opérer de la même façon avec les flèches résistance et réactance que M. Fresnel a aussi dans son sac. En connaissant les valeurs de chaque élément, on peut prévoir ce qui va se passer dans le circuit. Même s'il est débranché, ce qui permet à notre source d'aller se reposer. Alors ressortez vos tablettes de granit et gravez bien ceci. Dans notre circuit alternatif série, les résistances ne déphasent pas, elles s'ajoutent purement et simplement. Les réactances inductives déphasent de 90 degrés en avant. Les réactances capacitives de 90 degrés en arrière, donc elles se retranchent. Il suffit de mesurer combien d'ohms fait la résultante. Là, je vous arrête, monsieur Fresnel. C'est quoi que vous mesurez là? C'est pas seulement une résistance, ce n'est pas seulement une réactance, c'est une impédance. Je sais, ça fait beaucoup de trucs en anse, mais en alternatif, il faut ce qu'il faut. Et notre mathématicien de service fait remarquer que ça se calcule très facilement, comme dans les triangles rectangles, carré de l'hypoténuse égale... Impédance de l'ensemble, donc, 22,4 ohms, et s'il passait là-dedans un courant de 1 ampère, on aurait 22,4 volts aux bornes. Et oui, monsieur Volta peut venir vérifier, mais monsieur Volta dit qu'il nous fait confiance. D'ailleurs, il ne passe aucun courant puisque notre source est allée se coucher.
Voilà, donc voilà ce petit film d'animation qui est très sympathique. Vous allez en trouver d'autres sur internet. Donc si vous voulez aller les voir, bah allez-y, hein, y a pas de... Ils sont disponibles. Enfin, les premiers sont moins intéressants parce que c'est vraiment de l'électricité pure et dure. Mais toute la série, enfin vers la fin, il y a plus de choses intéressantes. Alors. Voilà, j'arrête le... C'est reparti, là, pour une autre vidéo, donc j'ai coupé le lien. Voilà. Poum, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bon, bah écoutez, ça a l'air d'être parti. Je vous souhaite, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas eu trop de remarques. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye.